Reportage.
Ici, Léon Zitron et Charles Emerson qui nous parlent de la grande salle d'honneur de l'Hôtel de Ville de Paris, où, en présence d'une foule très nombreuse, M. Pierre Ruet, président du conseil municipal de Paris, c'est-à-dire premier maire de Paris, reçoit son honneur M. Jean Drapeau.
Je vous remercie, Monsieur le maire, d'avoir bien voulu accepter avec Mme Drapeau, à laquelle je renouvelle l'expression de mes hommages respectueux, la très cordiale invitation de Paris. Plusieurs de mes prédécesseurs ont été les hôtes de Montréal à l'occasion de divers voyages au Canada. Aujourd'hui, vous voici à votre tour, venus au vieux pays, où, comme tant de vos compatriotes, vous possédez vos origines ancestrales. Dans quelques jours, vous vous rendrez en pieux pèlerinage à Fontenay-le-Comte, berceau de la famille Drapeau, qu'Antoine Drapeau quitta en 1665 pour la Nouvelle-France. Mais en ce moment, c'est avant tout le maire de Montréal qui revient au berceau spirituel de sa ville, puisqu'aussi bien celle-ci est unie à la nôtre par des liens proprement originels. N'est-ce pas en effet dans les milieux parisiens de la spiritualité bérulienne que prit corps le projet de fondation d'un centre d'évangélisation et d'un hôpital en amont de Québec? N'est-ce point dans la cathédrale Notre-Dame de Paris que fut en quelque sorte baptisé le futur Montréal sous le nom de Ville-Marie le 2 février 1642, jour de la Chandeleur, les parrains étant M. Ollier, fondateur de la Compagnie de Saint-Sulpice, et M. de la Dauversière, receveur des finances de la Flèche, sans oublier le fondateur, M. de Maisonneuve. Le Canada, comme la France et la Grande-Bretagne, comme ses voisins les États-Unis, a aussi payé un lourd tribut dans les combats pour la liberté et pour la dignité de la personne humaine. Les Canadiens d'origine française et d'origine anglaise sont tombés par dizaines de milliers sur la terre de France, mêlant fraternellement leur sang avec celui de nos soldats au cours des deux guerres mondiales. En Angleterre, pendant la guerre, les volontaires à la feuille d'érable fraternisaient plus volontiers avec les volontaires à la croix de Lorraine. À Vimy, à Dieppe, tous ses frères d'armes, nos cousins, reposent à jamais, entourés de la piété et de la reconnaissance de mes compatriotes. Nombre d'entre eux étaient originaires de Montréal, et il ne faut pas s'en étonner, puisque la ville que vous administrez avec tant d'autorité et de compétence, monsieur le maire, est la plus importante agglomération de votre pays. Je n'ai garde d'oublier qu'elle est aussi la seconde ville française du monde, une ville sœur pour nous, et qu'elle en tire une satisfaction qui ne laisse pas de nous toucher infiniment. Métropole commerciale du Canada, animée par une industrie active, Montréal est en perpétuelle expansion. Comme le pays tout entier, elle ne se contente pas de conserver avec soin le souvenir du passé, mais elle s'est résolument et de longue date tournée vers l'avenir. Elle n'est pas moins fière de ses raffineries de pétrole que de la chapelle Notre-Dame de Beausecours, construite il y aura 300 ans, dans quelques mois, par Marguerite Bourgeois. Ces deux universités, ces nombreuses écoles secondaires, sont fréquentées par une jeunesse ardente au labeur, à l'exemple de ses aînés, et, comme disent nos paysans, ne craignant pas sa peine. Cette jeunesse est le gage d'un avenir encore plus heureux et prospère. Celui-là même, au nom de la capitale de la France, je souhaite de tout cœur à Montréal et à ses habitants. Et permettez-moi, monsieur le maire, de vous demander, en terminant, de transmettre à vos concitoyens l'affectueux message de la vive et chaleureuse sympathie de Paris.
Acclamé que M. Jean Drapeau se lève, remercie son confrère, M. Pierre Ruet, pour déclarer aussitôt.
Peut-être comprendrez-vous toute l'intensité de ma joie et de mon émotion si je vous dis que c'est la première fois qu'il m'est donné de venir en France et que c'est la première fois également depuis un quart de siècle qu'un maire de Montréal vient en visite officielle à Paris. C'est assez vous dire toute l'importance que le conseil municipal de Montréal attache à ma mission et combien il a été sensible à un geste qui, dépassant infiniment ma personne, s'adresse à la métropole du Canada, à la deuxième ville française du monde. Et si dans la voix et l'accueil de Paris, c'est le cœur de la France entière que je devine, permettez-moi de me sentir en cet instant le porte-parole de tous les Canadiens français. Mais peut-être conviendrez-vous avec moi aujourd'hui qu'entre nos deux pays comme entre nos deux villes, les rapports sont d'une toute autre nature et que si un intérêt bien légitime y trouve sa place, quelque chose d'infiniment plus élevé, plus doux les anime, qui est tout ensemble de l'ordre du cœur et de l'esprit. Et j'en ressens bien toute la bouleversante et profonde réalité à cette heure, où plus que le maire d'une ville dans une autre grande ville, près que le maire de la métropole canadienne dans la ville Lumière, il me semble être ce fils chez qui la joie indicible de retrouver la maison paternelle se double de la fierté de pouvoir lui faire l'hommage des fruits de son labeur et des preuves de sa fidélité. Mais si en Amérique du Nord, le destin politique fut brutalement interrompu, quelque chose est resté, qui est peut-être, après tout, l'essentiel. Une langue, une foi, une culture, une personnalité nationale, quelque chose qui persiste à s'appeler la Nouvelle-France. Et si l'histoire politique et militaire enregistre l'échec de la grande aventure commencée en 1534, une autre histoire qui interroge plus l'âme des peuples que les pavillons sous lesquels ils vivent reconnaît sans conteste que l'essentiel du rêve des pionniers a été réalisé. Et je ne crois pas, chers amis français, être présomptueux en pensant que la présence en Amérique du Nord de plus de 5 millions de Canadiens français, deux siècles après la conquête, que l'existence d'un État provincial français au Canada et que le progrès incessant de notre langue et notre culture sur cet immense continent constitue pour vous des motifs de fierté, d'espérance aussi, et nous donne peut-être quelques droits à solliciter le redoutable honneur de partager avec vous aujourd'hui, sur le plan international, le soin de défendre ces valeurs françaises pour lesquelles nous avons tant combattu. Il vous arrive peut-être de vous interroger parfois sur la réalité de la présence française en terre américaine et sur ses chances de durer. Laissez-moi vous dire ceci. Si la conquête militaire et les efforts répétés d'assimilation n'ont pu empêcher, voici bientôt deux siècles, 60 000 Français pour les 9/10 pauvres paysans incultes de préserver leur langue, leurs lois et leurs traditions, aucune force désormais ne pourra avoir raison des 5 millions de Canadiens français qui, dans le Québec, surtout, mais aussi dans tout le Canada, témoignent quotidiennement de leur volonté acharnée de rester culturellement français. Hier encore, dans une région de l'extrême-ouest du pays, la Colombie-Britannique, un groupe important de familles canadiennes françaises se voyait refuser une école française. Une fois de plus, nous avons mené la bataille. Et voici quelques jours, à l'aube de la nouvelle année scolaire, 850 petits Canadiens français ont franchi le seuil d'une école toute neuve dans cette communauté de Maillardville, dont le nom a maintenant revêtu chez nous valeur de symbole. Voilà, me semble-t-il, qui vous donne la mesure de notre vigilance. Face au défi de l'histoire qui nous a jetés à quelques millions parmi 175 millions d'anglophones, nous savons que la résistance et le combat doivent rester notre partage. Résistance que nous opposons et combat que nous menons, avec d'autant plus de ferveur que nous avons conscience de défendre des valeurs spirituelles et culturelles dont le pays tout entier, et demain peut-être l'Amérique du Nord entière, bénéficieront. En retrouvant ce pays de France, marqué, me semble-t-il, pour les grands desseins, terre de prédilection de toutes les grandes entreprises humaines, d'où partaient il y a 300 et 200 ans une poignée de soldats, d'artisans et de paysans, en considérant ce que nous avons préservé de leur apport et réalisé de leur rêve, je crois pouvoir dire ici que nous n'avons pas démérité et que même si elle a dû suivre une autre évolution politique que celle de la mère patrie, la Nouvelle-France est là dont, après tant de nos compatriotes, je veux vous redire tout le fraternel attachement. Parmi les réalisations qui ont jalonné les deux siècles de labeur collectif, il m'est particulièrement agréable de souligner la progression de Montréal, qui revendique le titre de deuxième ville française du monde. Par là, nous entendons simplement indiquer que la région métropolitaine, avec ses 1100 000 francophones, constitue l'agglomération urbaine française la plus importante après Paris. Notre prétention ne va pas au-delà, car la ville même de Montréal est devenue, de par sa situation géographique, au confluent des grands axes de communication et des courants commerciaux, une grande cité cosmopolite, surtout par suite de l'afflux depuis une dizaine d'années d'un grand nombre d'immigrants européens de toute nationalité. Mais en cela, Montréal ne rejoint-il pas la grande tradition d'hospitalité et d'accueil de Paris, où depuis des siècles, des hommes de tout pays trouvent, avec un havre sûr, l'offrande de la liberté et des conditions idéales d'épanouissement intellectuel de toutes nos énergies. Et en cela, il m'est infiniment agréable de me faire le porte-parole de l'Université de Montréal, qui m'a chargé d'une mission qui constitue un précédent fort heureux. Je fais avec grand plaisir à la ville de Paris et au président du conseil municipal de Paris la lecture du message que j'ai été chargé de transmettre. En reconnaissance des avantages offerts par le gouvernement de France aux médecins de Montréal qui veulent compléter leurs études en France, l'Université de Montréal est heureuse d'offrir des bourses d'études à des étudiants français dans certains domaines. Une bourse d'études à un médecin français qui voudrait faire des études et des recherches à l'Institut de médecine et de chirurgie expérimentale dirigé par le docteur Cellier. Une bourse à un étudiant français qui voudrait s'inscrire à l'école d'hygiène dont le doyen est le docteur Armand Frappier. Une bourse à un étudiant français qui voudrait suivre des cours en orthodontie à la faculté de chirurgie dentaire dont le doyen est le docteur Ernest Charon. Une bourse enfin à une jeune Française qui voudrait parfaire ses connaissances en médecine physique à l'école de réhabilitation dirigée par le docteur Gustave Gingras et relevant de la faculté de médecine dont le doyen est le docteur Wilbrad Bonin. Monsieur le Président du Conseil municipal, Excellences, Messieurs les conseillers, en réitérant l'expression de la gratitude émue de la ville de Montréal à l'endroit de Paris, cité royale et haut lieu de l'humanisme, laissez-moi vous redire toute la profondeur de notre fidélité et de notre affection envers la mère patrie. Entre elle et nous, quelque chose est lié éternellement. Ces malheurs n'ont fait, si c'était possible, qu'accroître notre attachement, la qualité et l'ampleur de son relèvement qu'affermir notre confiance. Trop de raisons puissantes nous pressent de croire à la France pour que nous soyons jamais perméables au moindre doute à son endroit. Nous savons assez la qualité de ses forces morales et intellectuelles pour être certains que dans ce monde nouveau, elle jouera un rôle éclatant. Et là-bas, outre-Atlantique, un jeune peuple de 5 millions d'hommes dont rien ne pourra jamais altérer la fidélité entretient pour la mère patrie française la conviction fervente d'un avenir à la mesure vraiment de son passé prestigieux.
Ces échos de la réception de la ville de Paris au maire de Montréal, M. Jean Drapeau, vous ont été transmis par le service canadien de la radiodiffusion Télévision française.
Ici Radio-Canada.
Drone qui vous parle de Paris, le micro du service canadien de la RTF est installé dans la salle des documents canadiens des archives nationales françaises. Monsieur le maire de Montréal va venir visiter cette exposition dont nous vous avons déjà parlé, mais enfin c'est la première fois qu'un maire de Montréal visite une exposition semblable et bien entendu parmi les documents qu'on lui montrera ceux qui se rapportent au vieux Montréal, au Montréal d'il y a 300 et d'il y a 400 ans, au début de Montréal, à l'époque où Montréal commençait à devenir une ville, eh bien ces documents-là vont être montrés par priorité à M. le maire. Pour l'instant, le maire entre dans la grande salle dans laquelle il y a beaucoup de vitrines et c'est M. Brébant, directeur des archives nationales françaises, qui va prendre la parole.
Mes chers auditeurs, nous sommes actuellement à l'hôtel de Rouen, qui est un des plus magnifiques hôtels anciens de Paris, où j'ai la très grande joie de recevoir son honneur, M. Drapeau, maire de Montréal. Je vais lui montrer quelques documents intéressants à son pays, et nous en avons beaucoup, étant donné les liens très étroits qui ont toujours uni le Canada et la France. Déjà, il y a 2 ans, j'avais eu l'honneur de montrer certains de ces documents au très honorable Louis Saint-Laurent, qui était venu ici aux archives et à qui nous avions montré notamment le rapport extrêmement éprouvant du commandant de la Capricieuse, ce navire qui, en 1855, est allé au Canada, montrant pour la première fois officiellement, depuis la guerre de 7 ans, les couleurs françaises. Le commandant de la Capricieuse et son équipage avaient été l'objet d'un accueil extrêmement éprouvant, extrêmement enthousiaste, et ce fut véritablement la reprise des relations culturelles et affectueuses très profondes qui, depuis ce moment-là, n'ont pas cessé d'unir le Canada et la France. Je suis extrêmement heureux et honoré de recevoir ici le maire de cette ville de Montréal et je suis persuadé que nous pourrons, à la suite de sa visite, organiser une exposition de documents d'origine française sur le Canada dans cette ville de Montréal, où nous avons tant d'intérêt à soutenir et à vivifier tous les grands souvenirs français qui nous unissent.
Je vous remercie beaucoup, monsieur le directeur, et la visite va commencer. Les documents vont être présentés à son honneur par mademoiselle Jablot.
L'attribution d'une somme de 6 000 livres par François Ier à Jean Vimont pour l'armement des navires destinés à l'expédition de Jacques Cartier. La signature de François Ier est autographe. Ici, c'est une commission donnée par Jean de la Roque, seigneur de Robertval, signée également de Robertval, avec une signature autographe. Cette pièce est un arrêt du Conseil donnant l'autorisation à Pierre Dugas de faire trafic des fourrures. Et ici, cette pièce est l'ordre d'armée des navires, 3 navires. Sur l'un des navires est parti, Champlain est parti. Et cette pièce est signée, signature autographe toujours, de l'Aubépine, Béthune, c'est-à-dire Sully, et Bellièvre. Après, il y a quelques pièces relatives à ce que l'on appelait alors les sauvages, c'est-à-dire aux Iroquois et aux Hurons. Ici, il y a les paroles des Iroquois à M. de Calière, avec des signatures, des idéogrammes des Iroquois, qui sont assez amusantes. Cette pièce est l'établissement des religieuses hospitalières dans l'île de Montréal, datée de 1669. Nous retrouverons d'ailleurs dans l'autre vitrine quelques pièces relatives à l'établissement d'un hôpital à Montréal.
La visite en est parvenue à la table des cartes et je vais commettre une grande indiscrétion. Je vais vous demander, monsieur le maire, ce qui semble vous intéresser particulièrement sur cette carte sur laquelle vous êtes penché depuis un instant.
Voici, il s'agit d'une carte de Montréal établie, au fait, en 1834. Alors, il y a donc plus de 100 ans et mademoiselle me dit justement que la ville de Montréal, sur cette carte, c'est représentée par... C'est dommage que vos auditeurs ne puissent pas voir, mais ce petit groupe de rues. Et aujourd'hui, ben mon Dieu, toute l'île de Montréal est habitée, tracée en rue. Il y a de l'industrie, il y a du commerce, il y a du domicile, de la résidence, enfin... Et on voit le domaine du Château-Récollet, qui est maintenant le seul qui appartient à la ville de Montréal même.
Mais, monsieur le maire, est-ce que sur cette carte qui date déjà d'un siècle et quart, vous reconnaissez la grande cité que vous administrez?
Bien, je vois beaucoup d'arbres, ils n'y sont plus. C'est bien la ville de Montréal, c'est bien l'île de Montréal, c'est bien l'île Jésus, l'île Bizarre, l'île Perrault, le lac Saint-Louis, le lac des Deux-Montagnes, le Saint-Laurent, l'île Sainte-Hélène, la petite île Sainte-Hélène qui est maintenant transformée en centre de récréation, et bien que ce ne soit pas une île habitée d'une façon permanente, je peux vous dire que, particulièrement au cours des fins de semaine, le samedi après-midi, le dimanche, il y a 70-75 000 personnes qui s'en vont passer la journée en pique-nique sur cette île, Il y a des piscines pour enfants et adultes, des terrains de jeu, des terrains de stationnement. Alors, c'est l'île de récréation de la ville pour que ceux qui ne peuvent pas aller en villégiature dans les Laurentides, il leur soit quand même possible de s'y rendre par autobus. C'est à, disons, 1,5 km de la rive de l'île. Il y a un pont maintenant qui enjambe, le pont Jacques-Cartier, qui enjambe le Saint-Laurent à cet endroit-là. Et donc, quand on a fait environ 1,5 km sur le pont, nous quittons le pont, il y a une descente qui permet d'aller sur cette petite île Sainte-Hélène, qui est d'ailleurs nommée ainsi en l'honneur d'Hélène de Champlain, Hélène Boulay. Et d'après la légende, M. Brébant pourrait nous dire ce qu'il y a de fondé, on nous répète toujours que c'est sur cette petite île que les derniers drapeaux français ont été brûlés, plutôt que d'être rendus.
M. Brébant vient de répondre que c'est exact et la visite va continuer. Et c'est maintenant M. Mailleux qui va présenter les autres documents à nos visiteurs.
La carte de 1796 est la plus ancienne carte que nous possédions aux Archives nationales, conçue selon les données scientifiques modernes de la cartographie. Elle avait particulièrement intéressé d'ailleurs M. le Premier ministre lors de sa visite aux Archives nationales il y a 3 ans. Et en effet, la partie nord-est du Canada est traitée, on peut dire, d'une manière tout à fait moderne. La terre de Labrador, dont nous avons ici le premier dessin à peu près exact, était figurée dans les cartes précédentes d'une manière très fantaisiste, accompagnée généralement de dessins de rennes, de sauvages, de huttes, avec d'ailleurs, et ça c'est absolument inouï, avec d'ailleurs le pavillon espagnol qu'on y voit généralement, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, on distingue le dessin du Saint-Laurent, le dessin du lac. Et maintenant, alors, naturellement, la Floride commence, au moins dans sa partie méridionale, à être parfaitement explorée. On voit le site de la Nouvelle-Orléans. Et on voit aussi très bien, n'est-ce pas, où en sont arrivées les explorations vers l'ouest. On est arrivé dans ce territoire dit de Nadouessi, et qui, à la fin du 17e et au début du 18e, sera le prétexte à de nombreuses cartes, si je puis dire, folkloriques. Et nous en avions présenté à l'exposition de 1965 un assez grand nombre. Alors on voit aussi naturellement la côte de Californie, mais bien sûr, l'exploration n'est pas allée au-delà. On ne connaît pas naturellement les terres de l'Alaska. C'est également une carte intéressante que celle-ci.
Nous allons à une autre vitrine maintenant.
Qui est particulièrement axée, si je puis dire, sur l'Acadie. C'est la, du début du XVIIIe siècle, c'est la première bonne carte de l'Acadie. Là, c'est tout autre chose, c'est le site de Fort Carillon et la relation de la dernière grande victoire du marquis de Montcalm, qui, à peine deux ans plus tard, allait succomber à la plaine d'Abraham, devant Québec. Voici Montréal, avec un édifice que vous connaissez certainement, monsieur le maire, c'est le séminaire de Montréal. Le cardinal Léger, qui, il y a 2 ans, inaugurait ici, en sa qualité de légat du pape en France, pour les cérémonies de la conclusion de l'année mariale, notre grande exposition Bossuet, avait vu également quelques documents canadiens, et celui-ci. Et vous avez dit que c'est exactement le mon séminaire, à une différence près. Il y a maintenant une horloge au-dessus de la porte d'entrée. Ah, et nous avons, je crois, dans une de ces vitrines, une pièce par laquelle on voit M. Tronson, le supérieur religieux de Saint-Sulpice, seigneur laïque de Montréal, nommé le premier juge royal à Montréal.
Ah. Ah, c'est le document
que vous avez vu dans une des premières vitrines. Voici alors des rapports de Frontenac, en particulier celui-ci qui est un rapport général, cette belle écriture de Frontenac, une partie du rapport est chiffrée, sur l'administration générale du Canada, sur le comportement des habitants, et c'est lui qui nous a donné une description extrêmement précise de l'enthousiasme du Canada lors de la création du Conseil souverain. Et ceci est un très grand événement que la création de ce Conseil. Et le Canada a eu l'impression d'avoir acquis une sorte d'autonomie dont il était extrêmement fier.
Vous avez parlé d'écriture chiffrée.
Voilà, les chiffres.
Alors, c'était pour permettre quoi d'être plus bref dans son rapport et bien non de...
Surtout plus secret.
Plus secret.
Plus secret. Le chiffre avec le Canada, nous en avons plusieurs. Le chiffre était, n'était pas comme dans la plupart des consulats français où le chiffre changeait tous les ans. Le Canada se maintenait généralement durant tout ce que je pourrais appeler le règne, le gouvernement, le matin d'un gouverneur général.
Je vous demande pardon, messieurs. Monsieur le directeur, vous alliez dire à monsieur le maire quelque chose sur les archives canadiennes. Voudriez-vous nous répéter ce que vous venez de nous dire?
Ah oui, je disais à monsieur le maire que les archives canadiennes sont extrêmement bien organisées. Nous le savons puisque nous sommes en contact permanent avec les archivistes canadiens, qui viennent d'ailleurs quelquefois à notre stage à faire cela d'archives à Paris. Mais, à ma connaissance du moins, il n'y a pas au Canada une sorte d'exposition permanente, une sorte de musée s'adressant au grand public pour rappeler les souvenirs français. Je crois que nous pourrions peut-être organiser à Montréal, ce serait légitime puisque c'est M. le maire de Montréal qui en a eu le premier l'idée, n'est-ce pas, par une lettre qu'il m'a fait envoyer il y a 2 ans, nous pourrions avoir cette espèce de musée du souvenir français à Montréal.
Qu'en pensez-vous, M. le maire?
Bien, je pense bien que cette visite que nous faisons dans le moment et cette occasion que nous avons de parler, M. Brabant et moi, va nous permettre de continuer une correspondance laissée en suspens et inaugurée il y a tout près de 2 ans. Et je pense que ça devrait se terminer par une espèce d'exposition permanente de vieux documents et qu'il n'est pas suffisant de laisser aux yeux des érudits et des chercheurs, mais qu'il faudrait porter à la connaissance du public d'une façon permanente.
Il y a déjà plus d'un an qu'il y a de la correspondance Montréal-Paris, disons, mairie de Montréal et
M. Brabant, afin d'obtenir, afin de savoir les possibilités d'emprunter des archives nationales françaises, des originaux de documents d'un très grand intérêt pour tous les Montréalais, les Canadiens, et qui remontent il y a des siècles, et qui sont des originaux d'autant plus précieux que souvent c'est des documents qui se rapportent à une période antérieure à celle des documents que nous possédons. Alors déjà, il y a plus d'un an, j'avais été mis au courant de ça, j'avais eu des catalogues d'une exposition faite en Charente. Et ça m'avait intéressé, j'ai écrit à M. Brabant, et c'est cette correspondance-là que nous continuons maintenant dans une conversation sur place.
C'est parfait.
Et que j'espère bien, nous pourrons lui donner d'autres suites. Je ne peux pas préciser exactement à quel moment. Le char de l'État se meut lentement encore au siècle de la vitesse, mais... J'espère bien pouvoir favoriser une exposition de documents qui proviennent des archives nationales ou de leur reproduction.
Je voudrais que vous donniez un tout petit message à vos administrés.
Je vous remercie de cette occasion que vous me fournissez de dire bonjour d'abord à tous mes concitoyens de Montréal et à tous mes compatriotes du Canada. Partout ce message parviendra. Je voudrais leur faire savoir que tout ce que je vois, tout ce que j'entends, c'est avec les yeux et les oreilles du maire de Montréal et du porte-parole des Canadiens que je, le rôle que j'essaie de remplir et que je fais toujours la distinction bien nette que tous les hommages que l'on rend, ce n'est pas à ma personne, mais aux représentants d'un peuple et qui est bien lié à la France, mais c'est à ce titre-là et je leur suis d'autant plus reconnaissant de la mission qu'ils m'ont confiée et que j'essaie de remplir ici avec la sincérité et en y mettant tout mon cœur.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur Brabant. Merci à tous ceux qui ont enregistré cette visite du maire de Montréal aux archives et qui ont permis au micro du service canadien de la RTF de suivre cette visite pas à pas. Le séjour de monsieur le maire en France continue. Nous vous en rendrons compte, bien entendu, à nouveau demain. Ici Léon Zitrone qui vous a parlé de Paris.
C'était une présentation du service des reportages.